Nathalie Barge pour vous présenter une édition faite de reportages de nos correspondants, interviews et autres informations sur les questions concernant les jeunes et les femmes en Afrique et ailleurs. Nous ouvrons le monde au féminin par un hommage à la célèbre chanteuse malienne Kaira Arbi, décédée à l'âge de 59 ans le 19 août 2018 à Bamako. Éprise de paix, en particulier dans le nord du Mali, celle que l'on surnommait le rossignol de Tombouctou et qui avait débuté sa carrière à 11 ans et considérée comme l'une des plus belles voix du pays. La ministre malienne de la culture, Ramatoulaye Diallo Ndiaye, s'est déclarée en grande tristesse après l'annonce du décès de l'artiste qui a réalisé plusieurs albums en arabe, bambara, tamashek et sondraï. Entre blues berbère du Sahara et groove mandingue, elle est toujours restée ouverte à la diversité, poreuse au souffle fécond du métissage, assumant sa fonction sociale de tisserand de liens entre les communautés maliennes, a dit la ministre.
Dans la presse.
En République démocratique du Congo, les élections de décembre 2018 constituent un siècle des femmes, a affirmé en juillet dernier la candidate Chantal Faïda au bureau de réception des candidatures à Goma, dans le Nord Kivu. Pour elle, les femmes candidates partent favorites du fait que les hommes ont géré le pays sans apporter de solution aux multiples maux qui continuent à ronger la société congolaise, rapporte l'agence Congo Presse, précisant que la militante a encouragé les électeurs à soutenir les femmes, espérant plus d'engagement féminin lors de tous les nouveaux scrutins. Selon l'analyste Anaïs Angelo, si la politique des quotas est essentielle pour corriger des inégalités historiques, structurelles et culturelles, elle ne suffit pas à modifier profondément le jeu de pratiques politiques traditionnelles et d'institutions souvent fragiles. Dès lors, analyse-t-elle, la question se pose de savoir si une représentation accrue des femmes en politique implique nécessairement une redéfinition des rapports de genre dans les institutions de pouvoir. Voilà ici un raisonnement fondamental pour méditer sur la représentativité des femmes en politique.
Parole de femme.
Au Cameroun, les 9 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 sont tous des hommes. Un schéma on ne peut plus ordinaire dans la majorité des pays où les femmes qui osent se présenter sont rares, pour ne pas dire inexistantes dans certaines régions du monde. Et lorsqu'elles parviennent à déposer leur dossier, ces dernières sont également rarement retenues pour diverses raisons. Cela étant, au Cameroun, les deux seules femmes à s'être portées candidates, à savoir Geneviève Zé et Habiba Issa, n'ont pas été retenues, tandis que Kawala et Esther Dang, qui étaient dans la course en 2011, ont jeté l'éponge en 2018. lors du rejet des candidatures de Mesdames Zé et Issa, j'ai contacté à Yaoundé le politologue Moussane Joya. Voici un extrait de l'interview. Dans les candidats qui s'étaient déclarés, il y avait seulement deux femmes, ou devrait-on dire tout de même deux femmes, Geneviève Zé et Habiba Issa.
Oui, le problème de surtout Madame Habiba, c'est que son parti a beaucoup de tensions internes à l'UPC et le ministre de l'administration territoriale, dans un jeu assez indélicat, a décidé de prendre pour la faction Bapolipo de l'UPC. Pour Madame Zé, il faut savoir que son parti ne remplissait pas les conditions de l'article 121, à savoir que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut que le parti qui vous investisse ait au moins un conseiller municipal ou un parlementaire. Et je doute qu'elle ait même versé les 30 millions de cautions. Donc, il était clair qu'il y avait de grandes chances que ces deux candidatures soient rejetées. Parce que, premièrement, l'UPC, faction Bapolipo, cette cause pour le président Pébia dans le cadre du G20. Donc, c'est sans grande surprise qu'on a accueilli le rejet de sa candidature. Si vous me permettez d'ajouter un terme global, cela prend compte d'une situation très préoccupante, l'engagement politique féminin au Cameroun. Mm-hmm. En 2011, on a eu l'expérience de Mme Kawala et de Mme Esther Dang.
Et pourquoi Edith Kawala ne s'est-elle pas représentée cette année?
Je peux appeler ça, entre guillemets, le traumatisme de 2011. Mm-hmm. Parce qu'elle a été véritablement désarçonnée et déçue par le résultat qu'elle a fait en 2011. Et elle a un peu cette amertume, tout comme Mme Esther Dang, qui a été désabusée par le comportement des responsables du parti qu'elle avait investi, à savoir le BRIC. Donc, Mme Kawala estime qu'à l'état actuel du code électoral, de la mentalité des Camerounais, ça ne sert à rien d'aller surinvestir de l'énergie, beaucoup d'argent, du temps, pour quelque chose dont les résultats sont déjà pratiquement connus.
Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait plus de femmes qui se présentent aux élections?
Il faudrait encourager le militantisme inclusif des femmes. Parce que l'une des erreurs qui est commise par tous les partis, surtout les partis d'opposition, c'est de traiter les femmes de manière annexe. C'est-à-dire que dans la plupart des partis, vous avez une organisation des femmes. Mm-hmm. On dit organisation des femmes du MRC, de l'UDC, organisation des femmes de l'UNDP, etc. Ce qui fait en sorte que les femmes sont perçues dans l'activité politique comme essentiellement du bétail électoral et comme étant des forces de soutien, pas comme des forces incluses dans la lutte. Donc je me dis que les partis doivent rompre avec une mentalité de la spécificité féminine qui contribue à reléguer justement cette femme au second plan en les intégrant.
C'était le professeur Moussane Joya, joint à Yaoundé au Cameroun. Que veulent les femmes en politique? Se questionnent dans une tribune les militantes africaines Suzanne Kalalobé et Sonia Ben Messaoud, ajoutant « Veulent-elles la parité, le quota, soutenir une candidate féminine à l'élection présidentielle, développer l'action politique des femmes ou développer la capacité de mobilisation des femmes en politique ?» suppose en réalité de développer notre capacité d'action solidaire, estime-t-elle.
Et je la trouvais.
Depuis le lancement de l'initiative Safe School au Nigeria, les écoles de Maïdougouri organisent des exercices de sécurité d'urgence pour les élèves. Depuis 2009, l'UNICEF indique qu'au moins 1000 écoliers ont été enlevés par les islamistes armés, que plus de 2200 enseignants ont été tués et 1400 écoles détruites. Malgré ces nouvelles mesures, de nombreux enfants risquent toujours leur vie pour obtenir l'éducation dont ils ont besoin. Voici un reportage de Chika Odoua, rendu par Arzuma Compaoré.
Pour ces élèves du secondaire, c'est une journée normale en classe de chimie. Mais quand le sifflet retentit, tout change. C'est un exercice de sécurité. Les élèves pratiquent quoi faire en cas de danger. Les exercices ont commencé cette année seulement. Mohamed Tidjani, âgé de 17 ans, leur sert de guide en simulant le son d'une explosion d'une bombe.
Quand les assaillants arrivent, nous sommes censés pratiquer ces actions pour nous protéger.
Tidjani fait référence à Boko Haram, le groupe terroriste qui a émergé à Maïdougouri et déclaré la guerre au gouvernement nigérian il y a 9 ans. Ils n'ont pas encore attaqué cette école et l'administration espère que cela ne va pas changer. Le gouvernement nigérian et les agences donatrices ont mis en place l'initiative pour la sécurité dans les écoles en 2014 après l'infâme enlèvement des écolières de Chibok. Le programme aide à payer pour la formation en sécurité scolaire des éducatrices comme la directrice Kolozala, mais elle doit encore collecter des fonds pour payer les vigiles.
Je suis celle qui finance avec le peu que nous pouvons collecter.
Cette école, la plus ancienne de Maïdougouri, a été attaquée au moins 3 fois. À l'entrée, pas de garde postée. Ce journaliste entre sur le campus sans aucun contrôle. Boko Haram a tué le directeur et un autre éducateur dans cette salle il y a quelques années. Aujourd'hui, la seule protection contre une autre attaque, ce sont ces 2 bénévoles âgés qui gardent la porte arrière. Et dans cette école primaire à proximité, malgré les nouvelles mesures de sécurité, au moins 5 enseignants ont déjà quitté par peur.
Boko Haram est toujours une menace pour les écoles à Maïdougouri. Une menace pour les enseignants et même pour la communauté. En dehors des enseignants, les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école à cause de la situation actuelle. On ne peut pas deviner si telle ou telle personne est de Boko Haram.
L'UNICEF a affecté 9 millions de dollars à l'initiative pour la sécurité dans les écoles afin d'améliorer la sécurité dans les salles de classe. Les enseignants de l'école primaire de Galtimari disent que les murs de leur école doivent être renforcés. Alors que la police nigériane a été envoyée dans certains endroits proches des écoles, les éducateurs et les étudiants s'inquiètent de leur sécurité. Quant aux élèves, ils espèrent aller à l'école sans crainte. En attendant, ils comptent sur ces exercices pour les garder en sécurité.
Et oui, est-ce que la jeunesse pouvait?
L'association des blogueurs en Guinée a lancé une initiative citoyenne. Une 50aine de jeunes web activistes animent des plateformes numériques dédiées au suivi et à l'évaluation des promesses de leur gouvernement. Après enquête, les résultats sont rendus publics via une page Facebook et le site internet de l'association. Pour exemple, ces blogueurs guinéens travaillent notamment sur le discours de politique générale du nouveau Premier ministre. Un rapport sur son prédécesseur est disponible. Plus de précisions avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Les sympathisants et défenseurs du président Alpha Condé parlent des réalisations dans les domaines d'électricité, avec des barrages hydroélectriques et les infrastructures, notamment les hôtels. Mais dans les cafés, lieu de rencontre des jeunes sans emploi, le son de cloche est différent. Mamadi et ses amis passent le plus clair de leur temps à discuter autour de petites tasses de thé et parmi les sujets sur les lèvres, il y a la gouvernance politique qui semble donner à ces jeunes chômeurs un sentiment de désillusion.
Comme c'est un président qui a fait les enfants une fois qu'il va rentrer, même si on ne serait pas comme les Européens, on serait un peu à côté des Européens. Quand tu vois aujourd'hui que nous tous on veut sortir maintenant dans la paix, il ne faut pas t'en dire, même si nous mourons là-bas, mais on peut faire ça. C'est parce que bien les marches dans le pays, c'est le chômage.
Le chômage, plus élevé chez les jeunes, avec environ 60%, reste l'une des priorités pour le gouvernement guinéen. Un gouvernement dont les intentions sont scrutées, des actions passées au crible par des jeunes blogueurs, des activistes qui sont à leur 2e projet après l'observation de la présidentielle de 2015. Fodessa Nikaï Kouyaté, président d'Ablogui, association des blogueurs de Guinée.
Nous avons fait le constat de voir le contenu des projets de société et tout ça. Donc nous nous sommes engagés à ne pas se limiter simplement au processus électoral parce que ce n'est qu'une étape. Une fois qu'on aura donné le pouvoir à un candidat qui va être élu, il aura la possibilité de tout le grand pouvoir de décider à notre place pendant 5 ans. Donc nous avons estimé que s'il est élu, nous allons faire le suivi de son projet de société pour savoir quels sont les engagements qu'il a tenus vis-à-vis des populations.
Fodessa Nikaï et ses collègues web activistes ont produit 3 rapports sur les promesses faites par le président Condé et son gouvernement. Ces informations sont disponibles sur l'AID, promesse en langue locale, nom donné au site internet et à la page Facebook. Deux plateformes pour un projet piloté par Mamadou Alpha Diallo.
Notre objectif, ce n'est pas de dire seulement qu'une promesse est faite ou qu'elle n'est pas faite. C'est ce qui rend même le travail un tout petit peu plus compliqué. C'est pas ça. L'objectif, c'est de donner des informations. Si c'est fait, comment c'est fait, dans quel cadre, qui l'a fait, comment c'est fait. Si ce n'est pas fait, pourquoi c'est pas fait.
Le dernier rapport est le résultat du suivi et évaluation du discours de politique générale de l'ex-premier ministre et les actions de son gouvernement, Mamadou Alpha Diallo.
Nous avons donc sur un échantillon de 78 promesses que nous avons faites, nous avons constaté que le premier ministre Mamadou a donc, pendant le temps qu'il a été là, seulement 21% des promesses du président de la République ont été réalisées. Et quand nous partons plus loin, nous nous rendons compte que pour 40% de ces promesses, aucune action concrète n'a été posée.
Selon la Banque mondiale, environ 55% de la population guinéenne vivait sous le seuil de pauvreté en 2012. Elle reste beaucoup plus élevée en milieu rural avec 65% contre 35% en milieu urbain. La situation s'est aggravée en 2014 et 2015 en raison de la crise Ebola et de la stagnation de l'activité économique qui en a découlé. Ebola, un argument du président Condé, pour justifier certaines promesses qui n'ont pas été réalisées. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Entre parenthèses.
La cyberdélinquance connaît une ascension fulgurante au Bénin. D'après l'Office central de répression de la cybercriminalité, le pays vient en troisième position après le Nigeria, la Côte d'Ivoire en Afrique. Selon notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé, de plus en plus de jeunes s'y adonnent et vont parfois jusqu'à dépouiller leurs victimes en ligne.
On les reconnaît à leurs habitats par l'œil, à leur train de vie qui passe subitement à un standing bling-bling semblable à ceux des rentiers ou des hommes d'affaires. Ce sont les cyberdélinquants. Ces porteurs se plaisent dans les cybercafés à la recherche des pigeons à déplumer. Noah Padonou est un doctorant des systèmes d'information. Il parle ici de la forme de cyberdélinquance en Vogue-Bénin.
La forme que nous connaissons le plus au Bénin, c'est la forme des infractions liées au matériel informatique. C'est surtout la forme qu'on désigne par le Fonds 119.
Le système semble bien huilé au Bénin, puisqu'à chaque répression, de nouvelles stratégies sont adoptées pour contourner l'Office central de répression de la cybercriminalité. Le chef de ce service, Nikèze Danibo, parle ici des stratégies mises en œuvre et derrière lesquelles se cachent de véritables cyberdélinquants.
Il n'est pas rare de voir des magasins de vente de téléphones portables, de vente d'ordinateurs, même des quincailleries, des supermarchés. Vu de l'extérieur, vous avez une bonne exposition de ces marchandises, mais dans le bureau du promoteur ou du PDG, c'est les activités de cybercriminalité qui s'y développent.
On parle plus de 2000 cyberdélinquants appréhendés ces trois dernières années, avec des victimes qui se comptent à la chaîne. Le plus jeune cyberdélinquant au Bénin a 10 ans et le plus vieux en a 42, selon des chiffres rendus publics par l'Office de répression de la cybercriminalité. Plus de 800 millions de francs CFA, sans compter les attaques subies par les institutions financières qui s'évaluent à plusieurs millions de francs CFA, selon le chef de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Inks est détenteur d'une maîtrise en droit des affaires avec sa bourse universitaire. Il s'est acheté un ordinateur portable et depuis 3 ans, il en a autant qu'il peut. Pour lui, c'est une question de suivi et pas autre chose.
L'ANAC ne date pas de maintenant. C'est que vous vous retrouvez dans un dilemme où vous n'avez même pas le droit de faire le choix. Vous pensez que vous allez rester les bras croisés alors que votre petit frère est en train de mourir, alors que vous avez la possibilité de vous planter devant un ordinateur, de dire des choses pour faire croire à celui avec qui vous êtes en train de discuter, que voilà, j'ai une voiture à vendre.
Un reportage de Ginette Fleuradandé que vous pouvez suivre dans son intégralité sur voaafrique.com. Selon notre correspondant en République du Congo, il n'est pas simple de se marier quand on est jeune, notamment à cause d'une dot très élevée, dépassant le million de francs CFA, sans compter les cadeaux les plus invraisemblables. C'est pourquoi les juristes et les sociologues appellent les pouvoirs publics à cadrer cette pratique, toujours bien ancrée dans la société. Nguela Ngoussou a tendu son micro à des jeunes de Brazzaville pour connaître leur point de vue sur cette question de société.
Moi, pour des parents qui demandent des groupes électrogènes et autres, c'est un peu de la cupidité. C'est comme, qui dirait, un peu de quémander auprès de son gendre. En fait, c'est ça. Tu es vendu.
Moi, je pense qu'il faut abolir la dot. Nous sommes dans un monde où, aujourd'hui, en 2018, les femmes revendiquent l'égalité. La femme n'est pas une marchandise. La dot est aujourd'hui un frein. Il faut avancer avec son temps.
Et je pense que nos parents exagèrent quelquefois. Pour eux, ils pensent que c'est l'occasion de récupérer tout ce qu'ils ont engagé comme dépenses, que ce soit du point de vue scolaire, sanitaire et autres. C'est vraiment très élevé.
Le code de la famille adopté depuis 1984 est visiblement dépassé avec ces nouvelles pratiques. Le juriste Odilon Ondian suggère que le montant de 50 000 francs CFA prévu dans ce code soit revu à la hausse.
50 000 qu'on exigeait en 1984 sont devenus aujourd'hui une somme dérisoire. Vu le coût de la vie, il faut que le législateur s'adapte par rapport à l'évolution de la société. Vous savez, il y avait un grand juriste, Georges Ripert, qui disait que quand la loi ignore la réalité se venge en ignorant la loi. Parce qu'aujourd'hui, ce montant aussi entre 500 000, 1 million, voire même plus.
Nguedangus, Brazzaville, VOA Afrique.
La reine de la musique soul américaine Aretha Franklin reste à jamais dans bien des esprits. Après son décès le 16 août 2018 à son domicile de Détroit, à l'âge de 76 ans. Le jour de sa disparition, VO Afrique lui a rendu hommage à travers un récit d'Idriss Fall en revenant sur le parcours d'une étoile dans l'histoire sombre de la communauté africaine-américaine des États-Unis.
La reine de la soul, Aretha Franklin, avait été diagnostiquée d'un cancer en 2010 et recevait depuis plus d'une semaine des soins palliatifs à son domicile de Detroit. Elle restera comme l'interprète inoubliable de Respect, devenu l'un des hymnes du mouvement pour l'égalité des Noirs et des femmes aux États-Unis. Ce tube composé par Otis Redding lui offrira en 1967 ses deux premiers Grammy Awards sur les 18 qui vont jalonner sa carrière. Née le 25 mars 1942 à Memphis, dans le Tennessee, Aretha Louise Franklin est la fille d'un prêcheur baptiste et d'une chanteuse de gospel. Ses parents vont s'installer à Detroit, dans le Michigan. La maison familiale accueille souvent des musiciens comme Mahalia Jackson et le pasteur Martin Luther King, emblème du mouvement des droits civiques des Noirs. Le décor est déjà planté pour l'enfant qui apprend seul le piano et chante à l'église. À 14 ans, elle enregistre son premier titre. Elle signe en 1960 avec Columbia, mais ne connaîtra la gloire qu'avec son premier album avec Atlantic en 1967. I Never Loved the Man. Aretha Franklin est restée toute sa vie une femme noire, engagée. Elle a chanté à l'enterrement de Martin Luther King, assassiné en 1968 et amie personnelle de son père. En 2005, elle a reçu du président George W. Bush la médaille de la liberté, la plus haute distinction américaine pour un civil. Et en janvier 2009, elle a aussi chanté pour l'investiture de Barack Obama, premier président noir des États-Unis, pendant une cérémonie chargée d'émotions. Amazing Grace, un de ses titres fétiches.
Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Vous pouvez aussi consulter nos articles, vidéos, interviews et autres éditions dans la rubrique LMF sur notre site internet voaafrique.com. Cliquez sur Radio Le Monde au féminin et vous y êtes. On reste en contact. À très bientôt.